sur des éléments
qu'on peut appeler de la rente absolue, qu'on peut appeler de la concentration du pouvoir autour de la rente, et donc de toute la discipline et la capacité d'organisation que la rente peut déterminer dans le développement de la structure urbaine, métropolitaine, plutôt que suivre ce qui était les éléments pour nous importants de la rente, productif ou parasitaire. C'est-à-dire que notre hypothèse était au fond celle de chercher dans la rente urbaine et métropolitaine, un élément qui allait constituer le pouvoir financier et donc le pouvoir de contrôle sur les articulations de l'organisation urbaine et métropolitaine. Et on s'est trouvé comme un peu dans la même situation dans laquelle on s'est trouvé autrefois, par exemple devant les gens qui parlaient de l'immigration, des mouvements migratoires dans la ville, dans lesquels certaines fois on a comme l'impression que il y a une espèce d'état d'exception, un pouvoir pur et libre qui agit sur le terrain métropolitain. Une rente absolue, comme un pouvoir absolu de déterminer les mouvements dans la métropole, est exactement le contraire de ce que on a, nous, en hypothèse. C'est-à-dire que la métropole aujourd'hui s'est confiée comme dominée par des relations productives qui sont matérielles et immatérielles, à l'intérieur de laquelle le profit, dans toutes ses formes, financières ou non, financières ou profitables, économiques, et d'autre part, les divisions, les séparations, la dispersion métropolitaine est organisée, réseau inclusif. Le problème, ce n'est pas celui de déterminer un commandement sur la métropole, mais le problème, c'est de considérer comment cette métropole, qui a un pouvoir qui détermine tout, des séries d'exclusions, de hiérarchies, il est aussi, il joue aussi d'inclusion, c'est une capacité d'inclusion extrêmement forte, qui dérive de la consistance sur réseau, sur communication, sur complexité multitudinaire du travail matériel et immatériel de la métropole. Et ce jeu entre inclusion et exclusion, il ne peut pas être vu seulement du point de vue de l'exclusion. Il ne peut pas être vu seulement comme un commandement. Il doit être vu aussi comme dynamique, continuellement ouverte, continuellement contradictoire. Et si on ne joue pas cette capacité de souligner chaque fois inclusion et exclusion, et de mesurer chaque fois la puissance de l'un et de l'autre, on est justement dans une situation dans laquelle le discours devient un discours vain, qui répète certains modèles d'un pouvoir moderne, les catégories duquel nous, on considère, dans notre discussion, normalement dépassées. Donc, ça c'est un peu la question dans laquelle, autour de cette inclusion-exclusion, et l'un ou l'autre, les uns ou les autres, c'est sur ça que se joue normalement le d'autre part, il y a un autre discours que on avait en réalité déjà d'une quelque façon avancé les discussions avant qu'il y a eu avant. C'est-à-dire ce discours sur la métropole considérée comme une externalité. On avait insisté beaucoup, non, dans la discussion qu'il y avait eu sur le fait que la métropole n'est pas une externalité. Même pas une externalité positive. Mais qui est dans en tendance, la constitution métropolitaine devient le lieu essentiel dans lequel le travail matériel et le travail immatériel, le travail fordiste, pour ainsi dire, entre guillemets, et le travail cognitif, devient de plus en plus les éléments fondamentaux de la production en général. Pas seulement du general intellect, hein, mais de la production avec toute sa matérialité biophysique. Parce que c'est seulement à travers toutes les connexions de la et de la matérialité productive que on commence aujourd'hui à reconnaître ce qui est ce qui sont les éléments, non, de productivité en général. Donc je crois qu'il y a une chose sur laquelle on est plus ou moins d'accord, tout le monde, nous au moins, les gens qui conduisent ce séminaire, beaucoup moins que plus pour tous ceux qui nous entourent, c'est que la constitution du capital, entre capital constant et capital variable, c'est définitivement capital. Et que le capital variable n'est plus partie du capital constant, mais c'est quelque chose qui a, dans quelque façon, une certaine autonomie. La constante, un capital fixe et capital qui circule, ce qui sont des capacités, ça, qui sont des qualités, cette fixité et cette circulation qui ne sont plus liées désormais au capital variable et au capital constant. C'est-à-dire que c'est le cerveau, le capital fixe, d'un côté. Et c'est, et sont les réseaux, le capital circulant. Donc, quand on prend tous ces éléments, on les met ensemble, on se trouve un peu dans une situation qui ne ressort pas. Et est ressortie la dernière fois dans les débats qui s'est ouvert après la relation. Ce n'est pas été quelque chose qui a constitué discussion. Or, aujourd'hui, on demande à nos intervenants, à Michel Collin et à Pierre Mousseau, qui travaille à la faculté de Rennes 3, et que j'ai connu depuis longtemps parce qu'il travaillait une fois dans l'entreprise publique EDF Télécom, et qui était un élément de connaissance dans l'intérieur de cette entreprise très important, et qui et nous ouvrir de réouvrir la discussion sur cette thématique. Or, je ne sais pas s'ils ont envie d'abstraire leur discours jusqu'à ce point, mais je pense que leur introduction pour reprendre cette thématique.